La fabrique.
La fabrique.
Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à la République.
C'est parti.
Salut Lynn.
Salut Alessandra. Est-ce que tu veux me demander comment je vais ?
Mais bien sûr, comment vas-tu ma chère Lynn ?
Bah écoute, ça va mieux, mais je vais quand même me permettre un petit moment plainte pour ouvrir ce 19e épisode et te raconter ma journée de hier. Donc quand on enregistre, c'est samedi, et hier c'était donc vendredi. Et les vendredis, c'est mon jour de congé, et souvent j'en profite pour dormir un peu le matin, ou en tout cas traîner au lit et rattraper un peu de sommeil de la semaine. Mais hier, c'était niette, et je me suis réveillée à 7h du mat avec une cystite.
Oh, bingo.
Oui, celles qui en ont eu savent que ça fait terriblement mal et que c'est vraiment chiant. Et autant dire que ma grasse mat était grillée. Donc j'ai attendu que la pharmacie du coin de la rue ouvre et je suis descendue pour voir s'ils n'avaient pas quelque chose contre les cystites. J'étais déjà un peu saoulée de devoir commencer ma journée de congé par expliquer mon infection urinaire à un vieux pharmacien qui en plus n'a rien trouvé de mieux à me vendre qu'une boîte dragée aux plantes. Donc je l'ai achetée un peu par désespoir, mais j'ai quand même dit stop quand il a essayé de me vendre un jus de canneberge à 29 balles.
Ah ça j'aurais pu te le recommander, c'est connu comme tout la canneberge.
Ouais, ça, je pensais... pensais du n'importe quoi. Et donc j'ai avalé ces dragées et j'ai regardé un épisode de The Handmaid's Tale en réfléchissant à la meilleure stratégie pour me débarrasser de ma cystite. J'ai fini par appeler ma gynéco, ce qui était un move plutôt naïf parce que je n'ai jamais, mais jamais, réussi à avoir un rendez-vous chez la gynéco le jour même où je l'appelle, ni même dans la semaine, et évidemment là non plus. J'ai donc été à une permanence médicale. Les permanences, c'est toujours quelque chose, et surtout les salles d'attente. Et dans celle-là, il y avait une télé qui passait des clips de musique française franchement atroces.
Oh, tout ce que t'adores, toi.
Et en fait, tout ce que tu peux faire, c'est de te concentrer un max sur l'écran pour essayer d'oublier ta douleur.
Oh là là, une torture pour toi.
Ouais. Et au bout de 40 minutes de pop français à me faire saigner les oreilles, le médecin m'a enfin reçu. Et il avait cette manière qu'ont souvent les médecins, avec moi en tout cas, où ils se foutent un peu de ma gueule en me disant « Ah bah là, vous avez une belle infection et ça doit pas être très agréable. Hein. » Et puis toi, t'es là genre « Oui, en effet, ça fait vachement mal. Mais bon, vous le savez déjà parce que vous êtes médecin, alors qu'est-ce qu'on fait là ?» Et en fait, hier, il faisait super chaud et je portais un top sans manches et une jupe. Et sur mon bras gauche, j'ai un gros bleu qui est assez impressionnant mais qui fait plus peur que mal. Et que j'ai eu suite à un défi amical. Et le médecin l'a tout de suite remarqué et a commencé à me poser des questions dessus, notamment comment je l'ai eu. Et j'ai essayé de lui expliquer comment, que c'était tout ok, et voilà, amical. Et il ne m'a pas du tout cru. Et a commencé à me donner les adresses pour les femmes victimes de violences. Et je veux dire, c'est très bien. Mais je lui ai dit encore une fois merci, mais en fait c'est bon parce que c'est pas ça, et en fait je suis là pour une cystite, donc j'aimerais bien qu'on trouve une solution pour ça plutôt. Et en fait il m'a fait là une moue genre « mais oui ma petite, mais n'hésitez pas à contacter ce centre, il y a des conseils personnalisés ». Et à ce moment-là je savais pas trop quoi penser, parce que je me disais « c'est bien, tu vois, qu'il donne ces informations-là, sait-on jamais ». Mais en même temps, je lui ai quand même dit deux fois que je n'avais pas subi de violence et que c'était ok. Et il a vraiment fait comme si j'avais rien dit, avec vraiment ce regard de pitié paternaliste. Et ça fait vraiment un sentiment, en fait, que c'est toi qui es taré et qu'il n'y a personne qui comprend ce que tu dis, un peu en mode sixième sens, comme ça.
Bah, c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle que ces questions-là soient prises en charge par les médecins. Mais aussi, ça questionne sur le fait qu'une femme ne peut pas avoir de bleu autre que dans un contexte de violence conjugale aussi. Hein.
Oui, c'est clair. C'est ça. Justement, je pensais aussi à ça parce que moi, j'ai fait des cours de Shaolin. C'est un art martial, là, c'est du Kung Fu. Et voilà, ça donne beaucoup de bleu, en fait. Parce qu'il y a ce truc de... Cette idée que tu dois maîtriser ta douleur. Et du coup, j'avais souvent des bleus sur les bras et les gens étaient tout le temps inquiets, en fait. C'est ça, une femme avec des bleus, c'est forcément une femme victime.
J'avais eu l'occasion de discuter avec des femmes qui pratiquaient le roller derby, ce sport de contact sur patin à roulettes en quad, qui se font donc beaucoup, beaucoup de bleu. Et elles avaient presque une fierté comme ça à montrer un corps qui était marqué par des bleus dans un autre contexte.
Ouais, mais revenons à mon médecin. Donc après, évidemment, il m'a posé des questions sur ma vie sexuelle, qu'il a direct définie comme étant hétérosexuelle, sans aucune question, et en me demandant de nouveau s'il y avait eu de la violence. Bon, et après, il m'a posé une question que j'ai trouvée vraiment bizarre. Il m'a dit texto, est-ce que vous portez des sous-vêtements sexy? Et moi, j'étais là, ça veut dire quoi sexy? Dans ma tête, j'ai pas compris la question. Est-ce qu'il visait une marque en particulier? Ou est-ce que ça veut dire que je fais mes achats de sous-vêtements dans un sex shop? Ou est-ce que ça veut dire sexy en mode érotique? Et ben là, c'est quand même vachement subjectif. Sexy et sexy pour qui? Et je pense, voilà, comme ça que la douleur, en fait, ça me rend assez analytique. Parce que mon cerveau, il est en mode trouver une solution pour arrêter la douleur. Alors je vais décortiquer toutes les informations qu'on me donne. Mais en fait, ce qu'il voulait me dire et ce qu'il a fini par me dire, c'était qu'il fallait porter des sous-vêtements en coton, aussi appelés, d'après lui, des culottes de grand-mère. Et toi, t'es là, t'écoutes ça et tu penses à ta grasse mat qui s'est envolée depuis bien longtemps et tu peux un peu que te marrer.
À voir.
Ouais, à voir. Bon, là, j'ai choisi un peu de me marrer. Ce qui était génial, c'est que direct après la permanence, j'avais un rendez-vous chez le dentiste. Donc, super début de journée de congé.
Tu l'accumulais, là.
Ouais. Mais du coup, hier, je pensais à cette douleur. Donc, moi, les cystites, c'est vraiment, je pense, une des pires douleurs. Et ça me donne juste envie de me jeter par terre et de rester en position fœtus jusqu'à ce que ça passe. Ça m'enlève comme ça toute joie de vivre. Et du coup, je pensais hier aux femmes qui ont vécu il y a 100 ou 200 ou 300 ans. Comment tu traitais une cystite à l'époque? Est-ce que c'était juste serrer les dents et se mettre en route pour la journée? Et puis après, je me disais, mais en fait, il n'y a même pas besoin de remonter dans le temps. Je veux dire, comment font les femmes aujourd'hui qui n'ont pas accès aux médicaments, aux antibiotiques ou même juste aux toilettes?
Ben, canneberge, ma chère, canneberge.
La fabrique.
La fabrique.
Bon, je vais continuer à parler de moi. Donc, le week-end dernier, j'étais en Provence avec des amis et des amies. Et on a fait ce que j'imagine que la plupart des gens font en touristant la Provence, c'est-à-dire visiter des villages pittoresques et des marchés, manger et boire. Et en fait, j'ai pas mal réfléchi sur le fait de manger, la nourriture et toutes les performances genrées aussi qui l'entourent. Donc nous qui sommes partis, nous étions trois femmes et deux hommes. Et là, j'essaye de changer pour ne pas dire filles et garçons alors que j'ai presque la trentaine. Mais bon, ça sonne quand même un peu bizarre. Et en fait, les deux hommes avec qui je suis partie ont un sort d'amour pour un fromage de la région, de là-bas, qui s'appelle le Banon. C'est un fromage de chèvre assez fort et j'avoue, délicieux. Mais ils ont genre une obsession. Ils ont parlé dans la voiture en y allant, ils en parlent pendant qu'on prépare l'apéro, ils en parlent pendant qu'on le mange, ils en parlent après. Puis c'est toujours dans des modes un peu « Ah ouais, il est bien fait celui-là, et ça c'est un bon, un machin et tout. » Et
dis donc, heureusement qu'il y en avait, parce que sinon le séjour aurait été un peu ruiné, non?
Et voilà, bah, ils en font... Ouais, et bien, ils en font vraiment tout un plat, pour le dire.
C'est le cas de le dire.
Et moi, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose d'assez masculin, comme ça, de masculin, mais de ça, c'est performer quelque chose de masculin que de s'approprier la nourriture, comme ça, de s'approprier un sort de savoir sur la nourriture. Et c'est drôle parce qu'on est allé un jour dans un marché de village, et dans ce marché, il y avait un monsieur qui vendait des huîtres. Et moi, j'adore les huîtres, et aussi les deux amies, donc les deux amies femmes avec qui j'étais, aiment beaucoup les huîtres. Donc on est allé pour se prendre un verre de vin et manger une demi-douzaine de huîtres. Et en fait, il s'est avéré que les mecs, ils mangeaient pas d'huîtres.
Ah, ça non.
Non. Et du coup, c'était assez drôle parce qu'il y avait un couple hétérosexuel de Français bien du Sud, je vais pas faire l'accent là en les imitant parce que ça va être atroce, qui était là en train de manger des huîtres. Et le mec du couple, il m'a un peu regardé, puis j'étais en train de commander les huîtres, puis il m'a dit « Mais là, il y a que les gonzesses qui mangent des huîtres ». Et puis, il s'est un peu marré en levant les yeux au ciel, comme ça. Mais c'était assez complice, en fait, avec moi. Ça m'a fait aussi rire parce que ça faisait 2 jours que ces mecs, ils n'arrêtaient pas de parler tout le temps de leur fromage et comment ils étaient balèzes pour manger ça. Et puis, en fait, les huîtres, ils n'en mangent pas, tu vois. Mais en même temps, je n'étais pas vraiment d'accord. Enfin, tu vois, parce qu'il y a quand même un truc sexiste dans le sens... ils voulaient un peu dire que c'était des gonzesses parce que eux, ils ne mangeaient pas des huîtres et nous, on est... Et ouais. Alors que les gonzesses, nous, on mangeait des huîtres, tu vois. Enfin, il y avait ça. Un truc... mais ça a vraiment créé une complicité entre ce monsieur et moi sur ce moment-là que finalement, je... Ouais, je vais faire ma bad féministe, mais j'ai quand même assez apprécié.
Tu as ri. Bon, ben, moi, de mon côté, quand tu m'as dit... de ton retour, de ton séjour provençal que tu voulais parler bouffe, bah, comme en plus, moi, j'ai pas quitté le tarmac roman pour m'offrir des apéros exotiques, ni une ni deux devant mon écran, j'ai eu mes lumières de chercheuse qui se sont allumées à la mode grand phare. Bah oui, genre et alimentation, c'est une fois de plus toute une réalité sociale traversée par des inégalités entre femmes et hommes. Et donc, sûrement, je pouvais trouver une ou deux chercheuses ou chercheurs qui s'étaient plongés dans ces casseroles-là. Mais comme apéritif, je te propose un petit tour d'horizon sociologique sur la répartition des tâches concernant l'alimentation entre femmes et hommes. Bon, évidemment, ça ne veut pas dire que tout le monde fonctionne comme ça, mais que ça reste des études statistiques qui ont tout leur sens. Et préciser d'emblée que ces données sont effectuées dans des familles hétérosexuelles. J'ai trouvé en fait un article qui traitait de l'organisation domestique entre partenaires de même sexe et y concernait les couples masculins. Cet article évoquait une difficulté à s'organiser concrètement de façon vraiment égalitaire, avec en fait une présence d'une hiérarchie entre les deux partenaires et la difficulté due à une éducation masculine de se voir attribuer des tâches dites féminines, qui visiblement créent des tensions dans les couples gays, du moins les couples gays qui étaient interrogés pour cette étude. Mais j'ai pas trouvé d'exemple d'études sur les couples lesbiens. Et puis bon, alors évidemment, ça donnerait envie de multiplier les observations sur ces partenaires de même sexe ou bien traversés par la question trans pour affiner cette compréhension de l'organisation domestique conjugale. Et concernant les données sur cette organisation dans les foyers en Europe, ben, elle démontre quoi ? Une égalité toujours très actuelle dans le rapport à l'alimentation en termes de genre. Par exemple, j'ai trouvé des chiffres en Suisse. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais vraiment, il y a un décalage entre les heures qui consacrées par semaine en moyenne concernant les tâches domestiques. Par exemple, déjà en gros, les femmes consacrent 27,5 heures par semaine et les hommes 17,3. Et quand on se penche sur les activités vraiment propres à l'alimentation, elles passent le double de temps à préparer les repas que les hommes. Et puis, bah, aussi plus à laver, ranger la vaisselle, faire les achats. Même si là, faire les achats, ça se rapproche un petit peu, mais ça reste vraiment le double. 6,8 heures par semaine pour les femmes pour préparer les repas et 3,4 pour les hommes. Et d'autres études avancent aussi comme une autre inégalité, le fait que les femmes sont encore les gardiennes de la qualité nutritionnelle du foyer. Et pour gérer ces différentes responsabilités, on parle de charge mentale qui est déléguée aux femmes. Une charge mentale, c'est-à-dire d'avoir à penser au quotidien à la dimension alimentaire, à élaborer des menus de façon équilibrée, qui plaisent à toute la famille, planifier les repas, gérer les denrées, nettoyer la vaisselle, etc. Dis-moi.
Ouais, on avait parlé de Cathy O'Neill, qui est donc cette mathématicienne américaine dans un précédent podcast. Et elle, justement, elle parle de sa... ce truc de planifier des repas pour la famille. Elle utilise ça pour illustrer qu'est-ce que c'est un algorithme. Donc que tu as plusieurs données et que tu cherches à avoir certains résultats.
À ranger au mieux toutes les données. Ouais.
C'est ça, que tout le monde soit bien nourri, mais aussi content.
Que ça ne coûte pas trop cher.
Que personne n'ait crié pendant le repas, que ça ne coûte pas trop cher. Ouais.
Bon, ça, tu ne maîtrises pas l'écrit. Hein, mais... c'est pas toujours fonction de ce qu'il y a dans l'assiette. Oui, et ben, en fait, voilà, donc une autre manière de démontrer cette charge mentale pour les femmes, qui est dévalorisée, puis qui est souvent ignorée par les femmes elles-mêmes, en fait, de ne pas se rendre compte qu'il y a tout le temps cette présence ou ces pensées. Et je ne sais pas si tu as vu, mais il y a Emma, là, cette bédéiste, qui a fait un travail sur cette question de la charge mentale, une BD qu'elle a appelée « Fallait demander ».
Ouais. Ouais, ça a vachement tourné sur les réseaux sociaux. Je dois dire que je ne suis pas convaincue par l'esthétique de la BD, c'est assez...
Bon, mais en tout cas, on va remercier Emma, parce que comme tu dis, ça a tourné sur les réseaux sociaux.
Oui, c'est vrai que ça a eu beaucoup d'écho, et puis ça explique bien quand même. Enfin, ça...
C'est clair.
Cette idée de charge mentale. Mais on le mettra sur le post-pod.
Voilà. Et puis bon, bah alors comme après l'apéritif, comme plat de résistance, j'ai fait des recherches autour des travaux d'une anthropologue que je connaissais, Priscille Touraille, qui a écrit un livre, un titre très long, accrochez-vous, « Homme grand, femme petite, une évolution coûteuse, les régimes de genre comme force sélective de l'évolution biologique ». Voilà, donc ce titre à rallonge est sorti en 2008 et il a inspiré une réalisatrice de documentaire, Véronique Kleiner, qui a fait donc un doc de 50 minutes, « Pourquoi les femmes sont-elles plus petites que les hommes ?» Cette réalisatrice a aussi créé une web-série, « Grand, petite », et bah voilà, le tout est fort heureusement en ligne et évidemment référencé sur le poste. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de dire que sa théorie, ou enfin disons que son analyse, c'est la vraie vérité. Déjà, il aurait fallu lire son livre en entier pour se rendre compte exactement du propos de Touraille de manière plus fine, mais de toute façon, à vous partager ici l'intérêt immense de sa démarche. Alors la question que cet anthropologue s'est posée, qui surfe entre sciences de la vie et sciences humaines, concerne la différence de taille entre les femmes et les hommes. Une différence présente en moyenne dans toutes les populations du monde. Et voilà, je trouve que déjà poser cette question, c'est génial, parce que c'est quand même le truc qui paraît évident des plus naturels. Un homme, c'est grand, en tout cas plus grand qu'une femme. La nature a bien fait les choses, puisqu'un homme, ça doit protéger une femme. Eh bien, pas du tout. Anatomiquement, c'est pas du tout logique que les femmes soient plus petites. Oui, ça a été démontré par des recherches en obstétrique, donc dans le domaine des grossesses et des accouchements, que les accouchements sont infiniment plus dangereux pour les femmes petites. Les femmes, en fait, elles doivent être de grande stature pour garantir au mieux toutes les étapes de la mise au monde d'enfants. Ça a pu être prouvé statistiquement par des études sur des sociétés où la césarienne n'est pas pratiquée. Les femmes de petite nature meurent beaucoup plus en couche. Et dans les sociétés à fécondité élevée, où les femmes vivent donc plusieurs accouchements, il y a une sorte de sélection qui va agir contre les femmes petites et privilégier les grandes qui vont mieux survivre à leurs accouchements. D'ailleurs, dans ces sociétés, il semble que les écarts entre la taille des femmes et des hommes se réduisent. Ces études montrent alors qu'en fait, la sélection naturelle opère en faveur des femmes grandes, parce que pour exercer leurs fonctions reproductives, il faut avoir une grande stature, un bassin large. C'est donc les femmes qui ont besoin d'être grandes, et pas les hommes en termes biologiques. Dans son livre, Touraille raconte les différentes théories produites par la recherche dans plein de domaines différents. Ça, c'est aussi chouette, comme elle est allée piocher de droite et de gauche, en histoire, en sociologie, aussi justement dans les sciences de la vie, qui ont cherché des explications sur cette différence de taille observée dans l'espèce humaine et dans certaines espèces animales. Oui, parce que chez nos amis les animaux, quand il y a une différence de taille entre les femelles et les mâles, c'est souvent les femelles qui ont les plus grandes tailles.
Et aussi, je me demande si ça n'a pas quelque chose à voir avec une vision comme ça, hétéro-centrée. Parce qu'il y a quand même cette idée que dans un couple hétéro, la femme doit être plus petite que l'homme. C'est hyper dur de trouver, par exemple, des représentations. On peut penser juste les pubs ou à la télé de couples où la femme est plus grande. Et moi, il y a des femmes grandes qui m'ont raconté qu'elles ont vachement de la peine à trouver un homme parce qu'elles ne trouvent pas un homme plus grand qu'elles.
Et les hommes petits, ça a l'air aussi très compliqué à vivre avec des stratégies. J'ai des amis très drôles, petits, qui ont développé comme ça une sorte de sens de l'humour qui, lui, prend beaucoup de place. Mais en tout cas, ça porte un message. Enfin, ça porte une... Et puis bon, alors, à propos de ce livre de Touraille, je ne vais pas tout vous relater ici, toutes les différentes théories. Après, on dit que ça fait universitaire, patati, patata. Mais pour les curieuses et les curieux qui auraient la flemme de lire son livre, il y a sur le poste un article qui le synthétise et bien sûr le documentaire. Comme ça, vous pourrez vous faire votre propre idée. Mais bon, tu pourrais me dire quelque chose, là. Tu pourrais me demander, mais quel est le lien entre la taille et l'alimentation, qui est le sujet que tu m'as proposé?
Mais quel est le lien entre la taille et l'alimentation?
Ah, Lynn, je vais pouvoir te répondre à cette question. Ben justement, Touraille, elle privilégie, après toutes ses recherches, un questionnement autour de la dimension culturelle de l'alimentation pour comprendre la petite taille des femmes qui leur est si dangereuse dans leur vie reproductive. Et ce rapport culturel, en fait, refuse l'accès à la meilleure nourriture pour les femmes et justifierait ainsi leur taille. Une petite taille qui serait une adaptation à un régime moins fourni. Oui, parce qu'en période de disette, les petits individus survivent mieux que les grands. L'idée générale de l'anthropologue, c'est que tout au long de leur histoire, sur des générations après générations de femmes, les déficits nutritionnels qu'elles ont subis sont devenus chroniques et ont fait que, dans ces conditions, les femmes de petite stature survivent mieux. Les recherches menées par Touraille ont identifié le fait que les femmes à travers l'histoire et dans le monde ont moins accès par exemple aux protéines, surtout la viande. Oui, parce que la viande est un enjeu de pouvoir, elle est convoitée par tout le monde. Sans vouloir les pointer du doigt, mais des recherches sur des populations rurales montrent que les hommes ont plus accès aux viandes de gibier et d'élevage que les femmes et les enfants, pour qui c'est moins de viande ou pas toutes les parties de la viande ou pas de viande du tout. Alors que là, de nouveau, au niveau biologique, c'est les femmes qui auraient le plus besoin de protéines. Bah ouais, c'est elles qui perdent du sang tous les mois, qui allaitent.
Mais justement, la viande ça a aussi gardé une stature comme ça, très, une symbolique en tout cas très masculine. Dans le sens, les vrais mecs, ils mangent des vrais steaks bien saignants. Et puis les nanas, elles mangent un peu des cupcakes, ce qui est dégueulasse.
Alors ça, il paraît que l'appel du sucre pourrait avoir des origines hormonales, mais c'est pas démontré. Mais tu vois, je suis tombée comme ça, un peu en diagonale, sur une recherche qui avait été faite en 2011 en France, puis qui disait que justement les hommes préféraient les steaks et les pommes de terre, genre de trucs, et que les femmes remplissaient leur panier de course avec des fruits et des légumes. Puis une des explications, c'était aussi de dire que pour l'instant, les hommes peut-être avaient moins de connaissances pour cuisiner, donc c'est plus facile de te faire cuire ton steak, tu vois, et tes pâtes, que de cuisiner, d'apprêter ton légume.
Et après, c'est drôle parce que aussi tu parlais de, par exemple, les femmes, elles perdent du sang tous les mois, et justement, j'ai deux amies là qui m'ont raconté que elles aiment bien manger un bon steak bien saignant pendant leur période de règles, ou aussi boire du vin rouge.
Ça, moi, ça m'appelle aussi le vin rouge, ouais. Moins le steak. Je commence à avoir un truc à plus réussir à manger de la chair morte. C'est un problème, hein?
Moi, je pense que c'est pas mal bien pour la planète.
Ouais.
À ce qui paraît. Je pense que c'est OK, Alessandra.
Parle-en à ma famille. Bon, mais donc l'idée aussi, c'est que même, comme on l'a vu avant dans les chiffres, les femmes se retrouvent plus en cuisine que les hommes, ça change rien pour elles. Elles gardent pas le meilleur, elles s'empiffrent pas des meilleures victuailles, mais au contraire, elles se privent pour leur mari ou leur fils. Dans une socialisation, c'est-à-dire une éducation large, qui n'est pas seulement donnée par la famille, donc une socialisation du sacrifice. Bon, attention, hein, c'est quand même une place privilégiée, quantité d'histoires l'ont démontré, pour empoisonner les mets d'un mari peu sympathique. Faut se méfier quand même. Et puis bon, c'est pas seulement une question de sacrifice, mais de nouveau, des études qui sont répertoriées par Touraille, montrent qu'en Europe rurale et ailleurs, ce privilège masculin sur la nourriture peut être rappelé aux femmes par la violence. C'est donc aussi une exclusion très concrète pour les femmes, empêchées d'accéder au meilleur de l'alimentation. Il y a comme ça toutes sortes d'interdits dans le monde pour les femmes, pour certains aliments, où l'exemple était aussi donné d'une soupe communautaire, où le dessus, qui serait le plus riche, le plus nourrissant, était d'abord servi aux hommes, et aux femmes, on servait le dessous. Il y a aussi l'organisation de servir les hommes en premier, et que les femmes mangent après ou ce qui reste. Par exemple, de manière très concrète, il y a des études statistiques qui ont montré qu'en Europe, lors des crises du début du XXe siècle, qui ont limité l'accès de la nourriture pour toute la population, la stature des femmes a diminué plus vite que celle des hommes, et les hommes ont récupéré leur gabarit en période de calme beaucoup plus vite que les femmes. Et puis il y a aussi la thématique du contrôle de son apparence dans des sociétés industrialisées, et pas que. Et là, c'est moins des notions d'interdit, mais une dynamique d'autoprivation pour contrôler son apparence, là aussi sous pression sociale.
Donc, mais, ouais, dis-moi. Ouais, non, je pensais à... Non, je pensais à quand j'étais au cycle et au collège, donc c'est un peu quand t'as
Quand tu étais
entre.
jeune, tu veux dire?
C'est, donc cycle collège, c'est genre entre 11 et 18 ans.
11 et 16. Ah, collège, ouais,
Ouais,
18,
si
tout
je
à
prends
fait.
les
Oui,
deux
oui,
périodes.
oui.
Donc j'avais plusieurs amis qui faisaient des régimes, et des régimes comme ça assez durs pour des questions d'apparence. Et de faire des régimes comme ça pendant des périodes où tu dois apprendre, où tu dois faire bosser ton cerveau, où tu dois avoir de l'énergie pour, ouais, pour apprendre des nouveaux trucs tout le temps, tout le temps, tout le temps, et bah ça a un impact sur ton apprentissage. Tu es plus fatigué, tu as plus de peine
À
à
se
assimiler les
concentrer.
choses, parce que le cerveau, il a besoin de beaucoup d'énergie.
Il est très énergivore. Ouais. Bah, tu vois, il y a de nouveau une étude qui a été faite, j'ai un blanc, mais c'était 2012, il me semble en tout cas, pas très ancienne, auprès de 400 petites filles qui ont été interrogées entre 8 et 13 ans et qui montraient que 73% souhaitent maigrir. C'est fou,
Ouais,
hein?
c'est fou.
Donc, déjà des complexes et une envie d'être différente entre 8 et 13 ans. Mais là aussi, c'est différent. Hein. Bon, ça paraît, c'est pas pour ça ne réinvente pas la poudre, mais le fait que les femmes se privent plus de manger que les hommes, pour qui ça peut même être considéré comme viril une certaine prise de gras, et que effectivement, pour s'approcher un tant soit peu des canons dits de beauté actuels, c'est sûr, faut diminuer drastiquement ses apports calorifiques, donc se priver. Et puis il y a aussi les dimensions des régimes, comme on pourrait les appeler, par préoccupation pour sa santé. Ou des études ont été menées notamment au Canada récemment et qui montrent que les femmes suivent beaucoup mieux les recommandations sanitaires, tu sais, genre manger 5 fruits et légumes par jour, hein, et aussi que leurs connaissances en nutrition sont supérieures à celles des hommes. Donc un plus grand souci pour l'alimentation de bonne qualité chez les femmes qui a son revers de médaille puisqu'elles souffrent plus de troubles alimentaires que les hommes. Bah d'ailleurs, c'est un peu aussi pour complémenter ce que tu disais, cette pression de penser toujours à sa corpulence, qui va être mangée ou pas, ce qui ferait envie à manger mais dont il faut se priver, ça exerce une réelle pression. D'ailleurs, j'ai même trouvé ce terme de colonisation et domination de la pensée par l'alimentation. Bah ouais, être au régime sec, ça prend énormément d'énergie, il n'y a plus la place pour penser à grand-chose d'autre. Puis ça tombe bien, c'est tout ça de cerveau disponible en moins pour s'attaquer à réfléchir aux normes même qui forcent à de tels comportements. Et c'est pas seulement à travers les médias que ces normes existent, mais il y a des témoignages de femmes à plus forte corpulence qui évoquent une vie passée sous les conseils alimentaires, les remarques désobligeantes de l'entourage, une violence psychologique qui fonctionne comme un rappel à l'ordre permanent d'une certaine ligne corporelle à avoir ou à conserver. Du coup, ça éclaire aussi le mouvement de revendication de poids hors normes. J'ai même trouvé un groupe féministe qui s'appelle Riots, Non Diets, des émeutes, pas des régimes. Et c'est pour ça que l'alimentation est pensée comme une arme du genre, qui est le titre d'un article que vous aurez sur le poste. Parce que le rapport à l'alimentation reproduit, vient renforcer un ordre social différent pour les femmes et les hommes et inégalitaire. Et puis je trouve aussi que tout ça, c'est une manière de démontrer la façon dont la culture façonne les corps, puisque d'après Touraille, un accès social différencié pour les femmes et les hommes à l'alimentation, notamment de meilleure qualité, dans une domination invisible, crée des corps sexuellement différents.
Ouais, et après je pensais aussi à ce truc que, donc il y a quelque chose avec donc qu'est-ce qu'on mange, mais il y a aussi des choses par rapport à comment est-ce qu'on mange. Et il y a beaucoup d'enjeux genrés dans toute la structure qu'il y a autour de, enfin le processus de manger. Par exemple, quand tu vas au resto, si en tant que femme tu vas au resto avec un homme ou des hommes, bah par exemple la carte de vin c'est toujours pour le mec, la note c'est presque toujours pour le mec, enfin.
Et j'avoue que moi, j'aime bien goûter le vin, mais des fois j'ai la flemme parce que c'est un acte à poser en fait, presque révolutionnaire. Non, je vais goûter moi le vin, que parfois je me prive même de ce plaisir-là, tellement ça me gonfle par avance.
Ouais, mais moi justement j'aime assez aussi jouer avec ces codes-là en fait. Donc, enfin, c'est moi qui invite au resto, c'est moi qui commande le vin, c'est moi qui appelle les serveurs. Bon, après j'ai aussi bossé dans la restauration, donc je suis peut-être un peu, enfin, je suis assez à l'aise avec ces codes-là et du coup aussi de les remettre en question. Mais comme tu dis, il y a toujours des remarques, même si c'est juste un peu des petits regards ou des petits sourires en coin.
La fabrique.
La fabrique.
Bon, Alessandra, bientôt les vacances. Hein. Ah. Donc nous, on revient encore dans 2 semaines avec le déjà 20e épisode. Et après, Crépidule va faire une pause estivale de quelques semaines. Et nous nous offrons un peu de vacances, mais aussi du temps pour préparer les podcasts de la rentrée. Et nous avons notamment une liste d'invités passionnantes et passionnants. Liste qui commence à se faire longue et on espère pouvoir vous offrir quelques-uns de leurs récits nourrissants d'ici cet automne. Mais du coup, j'ai aussi une proposition de lecture pour nous, Alessandra, pendant l'été.
Oh, j'en ai déjà assez.
On verra ce que tout le monde dit.
Si.
Oui, parce qu'il y a Christine Bard qui vient de sortir un dictionnaire des féministes, un ouvrage qui promet d'être des plus inspirants. Donc Christine Bard est une historienne française, spécialiste de l'histoire des femmes, du genre, du féminisme et aussi de l'anti-féminisme. Donc toi et moi, nous la connaissons de nos études pendant lesquelles nous avons eu l'occasion de lire de ses textes. Et elle a notamment travaillé sur les vêtements, l'histoire des vêtements et des enjeux sociopolitiques qui les entourent, notamment dans son ouvrage « Ce que soulève la jupe, identité, transgression, résistance » de 2010, ou encore l'ouvrage « Une histoire politique du pantalon » sorti en 2014.
Oui, parce que celle-là aussi, je viens de pouvoir la compléter un petit peu. Donc, par exemple, en France, il y avait une loi qui interdisait le port du pantalon pour les femmes, qui a été supprimée seulement en 2013. Et ça, j'avais entendu cette chose incroyable. Mais en même temps, j'ai appris il y a peu comment ça s'était mis en place. Et en fait, cette loi, elle a été instaurée à la fin du 19e, à l'issue des mouvements révolutionnaires en France, où le port du pantalon est devenu un enjeu politique. C'était une manière de se démarquer de la bourgeoisie et de l'aristocratie. Les sans-culottes, c'était donc qui portaient des pantalons, ces citoyens en herbe-là. Et donc, le pantalon prend cette portée-là, et à ce moment-là, on l'interdit pour les femmes dans un contexte social qui légiférait de plus en plus sur les différences hommes-femmes. Donc on avait aussi besoin de pouvoir repérer tout de suite qui était quoi.
Ouais. Donc pour la sortie, je reviens, désolée, je fais même pas une réaction, je reviens tout de suite sur Christine Bard.
Pardon.
Donc pour la sortie de son dictionnaire, Christine Bard a donné une interview dans Libération, qui donc est un journal français. Et dans cette interview, elle explique que c'est le premier dictionnaire français consacré à l'histoire des féministes et des féminismes. Donc ce sont des ouvrages qui existent par exemple aux États-Unis ou encore en Grande-Bretagne. Parce que en fait là-bas, d'après elle, là-bas dans ces lieux, d'après elle, les mouvements féministes sont plus puissants, plus installés, plus structurés. Et elle dit aussi que son ouvrage n'a pas pour prétention de définir le féminisme, mais qu'au contraire, elle souligne la nécessité d'accepter la pluralité des définitions qui ont coexisté et évolué dans le temps, et qu'il n'y a pas un féminisme, mais des féminismes. Après, je trouve assez drôle parce qu'elle s'ose quand même, dans cette interview, à faire des catégories en fait, à l'intérieur des féminismes. Et elle parle notamment de féminisme de l'égalité, qui serait un féminisme qui déboucherait sur des changements juridiques. Elle parle du féminisme spéculatif, qui, d'après elle, est le féminisme qui interroge le genre et aussi des catégories, notamment comme la féminité, la masculinité. Et puis, elle parle d'un féminisme créatif, donc un féminisme qui s'inscrit dans le monde de l'art et de la création. Aussi, et ça je pense que tu vas aimer, elle met en contexte le terme de troisième vague, donc ce terme utilisé pour qualifier le renouveau militant de la fin des années 90. Et elle montre comment l'historicisation des mouvements féministes permet de montrer que de telles appellations et hachures chronologiques ne tiennent pas la route, notamment du fait qu'elles tendent à invisibiliser les féminismes qui ont œuvré en fait pendant les périodes dites donc de creux. Et Bard explique par exemple que pendant les creux de la vague des années 80, les mouvements de féminisme lesbien ont été très actifs, tout comme les mouvements de lutte de femmes immigrées. Ce livre s'appelle, ou ce dictionnaire s'appelle « Dictionnaire des féministes, France, 18e au 21e siècle », et c'est par Christine Bard et Sylvie Chaperon, et c'est publié chez Pouf.
Pouf, pouf, puf. Parce que c'est presse universitaire de France.
Alors, puf.
Alors, puf.
Ah, bah, c'était juste. Bon, et après, je dis juste, le livre, il est un petit peu cliché. Enfin, la couverture du livre est un petit peu cliché avec une nana de Nikki de Saint-Phal sur la couverture. Mais bon, on ne peut pas tout avoir.
Et puis, pas dit que ce soit elle qui l'ait choisi non plus.
Ça, c'est vrai.
Bon, Maline, plein de choses.
Oui.
On s'arrête là.
Oui.
Ça te va?
Oui. À dans 2 semaines.
Tchuss.
Tchuss.
La fabrique.
La fabrique.
Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui. Pour prolonger la réflexion sur les thèmes abordés, vous pouvez vous balader dans le post-pod sur le site crépidule.com. Vous y retrouverez également nos autres épisodes à écouter, aussi sur iTunes.